Alors nous sommes aujourd'hui le dimanche de Pentecôte. Voilà, jour extraordinaire à partir duquel l'Esprit de Dieu est venu habiter de manière permanente dans tous ceux qui appartiennent à Jésus. Voilà, le Saint-Esprit est venu habiter dans nos cœurs. Alors, lorsque l'on pense au Saint-Esprit, nous pensons bien sûr à la présence de Dieu. Dieu est vivant en nous, mais aussi nous pensons à la puissance de Dieu. Et en Actes 1:8, Jésus a dit d'ailleurs à ses disciples, « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. » Et lorsqu'on lit le Nouveau Testament, eh bien, on voit les grandes choses que font les disciples de Jésus après qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, cette puissance de Dieu. Remplis du Saint-Esprit, ils annoncent la parole de Dieu avec assurance. Poussés par le Saint-Esprit, ils parlent de la part de Dieu. Le Saint-Esprit accorde des dons à certains, le parler en langue, à d'autres, la capacité de faire des miracles et des guérisons, toutes sortes de choses. Et non seulement le Saint-Esprit permet de faire de grandes choses, c'est Dieu qui agit avec puissance, mais on voit aussi le Saint-Esprit qui rentre en relation avec les disciples de Jésus et qui les conduit dans leurs décisions. C'est ainsi le Saint-Esprit qui envoie Paul et Barnabas en prison. C'est le Saint-Esprit qui empêche Paul d'aller à certains endroits. C'est le Saint-Esprit qui parle à Pierre dans des visions. Non seulement le Saint-Esprit permet aux disciples de Jésus d'être directement en relation avec Dieu, mais on voit aussi que le Saint-Esprit agit dans la vie personnelle des disciples. Lorsqu'ils sont remplis du Saint-Esprit, ils sont également remplis de joie. Et on voit que le Saint-Esprit porte du fruit dans la vie des croyants. Voilà, c'était des personnes qui avaient toutes sortes de passés, mais une fois que l'Esprit de Dieu vient en eux, ils portent un fruit qui fait qu'ils ressemblent de plus en plus à Jésus. Alors parce que la Bible met en lumière la puissance du Saint-Esprit, nous pourrions en déduire que rien ne peut freiner l'action du Saint-Esprit qui vit en nous. Eh bien, ce serait une erreur de croire que rien ne peut freiner l'action du Saint-Esprit en nous. Et le texte que nous allons lire se termine par cela. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristons pas le Saint-Esprit qui vit en nous, mais coopérons avec lui. C'est le titre de ma prédication. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 4. Donc, si vous avez une Bible comme celle-ci, c'est à la page 768. Et je vous informe également que le texte sera projeté. Alors, bien que ma prédication porte sur les versets 20 à 4, donc Éphésiens 4, versets 20 à 30, pardon, nous allons commencer notre lecture à partir du verset 17, parce que l'apôtre Paul, qui est l'auteur de cette lettre, commence par nous adresser un avertissement. Verset 17 et suivant. « Voilà donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcis. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. » Paul commence par un avertissement. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants. Voilà, autrefois, avant de connaître Jésus, bien sûr, on se comportait comme cela. On se comportait comme si Dieu n'existait pas. Mais maintenant que nous connaissons Jésus, ce n'est plus possible. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants. Parce que les non-croyants ne vivent pas d'une manière qui honore le Seigneur. Et on peut comprendre cela, puisqu'il est écrit « Ils sont étrangers à la vie de Dieu ». Voilà. Si quelqu'un ne connaît pas le Seigneur, s'il ignore la volonté de Dieu, si Dieu ne vit pas dans son cœur, alors on comprend que sa vie reflète qu'il est étranger à la vie de Dieu. Mais si jamais nous connaissons Christ, si nous ne sommes plus des étrangers à la vie de Dieu, si l'Esprit de Dieu est réellement vivant dans notre cœur, alors cette vie de Dieu en nous va se manifester. À la condition que notre manière de nous conduire ne nous amène pas à attrister l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et l'apôtre s'adresse maintenant à tous ceux qui connaissent Christ, et c'est sur ces versets que s'appuiera ma prédication. Versets 20 à 30. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ, si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, et à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le diable ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. Pardon ? Je ne sais plus ce que j'ai dit. Que le soleil ne se couche pas. Le diable, c'est ça ? Je me souviens, je m'ai entendu. Si vous vous mettez en colère, en tout cas ça me fait plaisir, je ne suis pas le seul à parler, vous écoutez aussi. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. Que celui qui volait cesse de voler. Qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqué d'une empreinte pour le jour de la libération. Voilà les paroles que le Seigneur nous adresse par l'intermédiaire de l'apôtre Paul. Alors, nous pensons parfois que vivre sous la conduite du Saint-Esprit consiste à suivre nos intuitions et à nous laisser guider par nos impressions. Eh bien, Paul, au contraire, souligne que la vie par le Saint-Esprit consiste non pas à suivre nos intuitions, mais à suivre la volonté de Dieu. Versets 20 et 21, nous devons avoir appris à connaître Christ, avoir écouté, avoir été enseigné en ce qui est conforme à la vérité. La vie par l'Esprit de Dieu se caractérise par notre obéissance à la parole de Dieu, la Bible. Et c'est normal, puisque c'est le Saint-Esprit qui a présidé à la rédaction de la parole de Dieu. Personne ne peut prétendre avoir été conduit par le Saint-Esprit si jamais il a fait quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Personne. Parce que le rôle du Saint-Esprit n'est pas de nous transformer en rebelles contre Dieu, mais au contraire, son rôle est de nous aider à ressembler de plus en plus à Jésus. Et qu'est-ce qu'a fait Jésus ? En tout point, il a parfaitement accompli la volonté de Dieu. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de restaurer en nous l'image de Dieu. Verset 24, grâce à l'action de l'Esprit de Dieu, il est question de se revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu. Alors là, il faut comprendre homme, non pas comme l'homme masculin, mais comme le sens générique. Voilà, le mot utilisé ici, hein, anthropos, signifie voilà, les êtres humains, hommes et femmes. Hommes et femmes ont été créés en l'image de Dieu, mais malheureusement, le péché a altéré en nous l'image de Dieu. Elle l'a déformée, elle l'a recouverte, abîmée, salie. Eh bien, la mission du Saint-Esprit, c'est de restaurer ce que nous sommes vraiment, des hommes et des femmes créés en l'image de Dieu. La mission du Saint-Esprit, c'est de nous transformer de façon à nous faire ressembler de plus en plus à Jésus. Voilà. Que par nos pensées, nous finissions par penser comme Jésus. Que nous ayons en nous les mêmes sentiments qu'aurait Jésus à notre place. Et que nous puissions accomplir ce que Jésus aurait fait à notre place, dans notre situation. Depuis la Pentecôte, on voit que la puissance du Saint-Esprit se manifeste essentiellement par la transformation des cœurs et des vies. Cette transformation des vies et des cœurs que le Saint-Esprit a commencé en nous, eh bien, très bonne nouvelle pour nous, le Saint-Esprit l'amènera jusqu'à son terme. Le verset 30 nous dit que nous avons été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Alors, nous avons été marqués d'une empreinte. Vous savez, comme c'est le même mot qui est utilisé lorsqu'il y avait un roi, promulguait une loi, et il avait une bague, et il mettait son empreinte dessus pour attester que ce qui était écrit venait de lui, et pour que tous ses sujets puissent être certains que c'était la décision du roi. Et c'est pour ça d'ailleurs que, probablement, vous avez entre les mains des traductions qui disent que nous avons été marqués du sceau de Dieu, ou alors que nous avons reçu une garantie. Eh bien, la présence du Saint-Esprit en nous est la garantie que nous appartenons à Dieu pour toujours. Voilà, c'est scellé, verrouillé. Rien ne nous arrachera à l'amour de Dieu, rien ne nous arrachera à l'amour de Christ. Mais plus aussi que cela, pas seulement cela, nous avons aussi l'assurance que le Saint-Esprit achèvera un jour son travail de régénération. Un jour, nous serons pleinement libérés. Libérés du péché qui nous a servi, libérés des mensonges auxquels nous croyons, libérés de nos blessures qui nous déforment, libérés de nos peurs. Et en ce jour-là, nous serons véritablement nous-mêmes, des hommes et des femmes libres créés en l'image de Dieu. Nous serons alors véritablement libres et capables d'aimer Dieu de tout notre cœur, d'aimer notre prochain et même de nous aimer nous-mêmes. Mais en attendant le jour de notre complète libération, en attendant ce jour, nous devons permettre au Saint-Esprit d'agir en nous afin que son action de transformation commence dès à présent. Pourquoi attendre? Pour que le Saint-Esprit puisse agir en nous, il faut nous faire deux choses selon ce qui est enseigné dans la parole de Dieu. Verset 22, « On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre » et qui se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. Voilà, si nous ne voulons pas attrister le Saint-Esprit qui vit en nous, et si nous voulons lui permettre d'agir en nous, nous devons de notre côté nous débarrasser d'un certain nombre de choses qui sont ancrées dans notre passé. Certaines mauvaises habitudes que nous avions, certains mensonges auxquels nous croyons, Alors autrefois, nous pensions que ces choses étaient justes, qu'elles étaient bonnes pour nous. Eh bien, nous nous trompions. Parce que céder et suivre ces désirs trompeurs n'ont fait que nous détruire. Ils ont déformé, altéré ce que nous sommes, des êtres créés en l'image de Dieu. Alors, nous débarrasser de certaines choses, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant pour ressembler à Jésus. Versets 23 et 24, nous devons également nous laisser renouveler par l'Esprit dans notre intelligence et nous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. La vérité, ce n'est pas quelque chose de subjectif, hein, c'est ce que Dieu nous révèle dans sa parole, ce qu'il nous révèle sur lui, sur nous, sur sa volonté. Eh bien, c'est cette vérité qui produit la sainteté et la justice, c'est-à-dire qui nous permet de vivre d'une manière qui est juste et bonne aux yeux de Dieu. Et si nous voulons être transformés par le Saint-Esprit, nous ne devons pas l'attrister, mais au contraire, nous devons lui permettre d'agir en nous. Nous devons, d'un côté, renoncer aux habitudes et tendances de notre vieille nature, et nous devons, d'un autre côté, suivre la vérité et ainsi nous laisser renouveler par l'Esprit de Dieu. Et afin que nous comprenions mieux ce que cela signifie concrètement, la suite de notre passage va nous donner quelques exemples. Le verset 25, par exemple. Ah, merci. C'est pour ça, tout à l'heure, je me suis trompé, parce que j'arrive pas à voir ce qui se passe. Voilà, merci. Non, hein, j'avais pris de l'avance, c'est l'inverse. Merci, voilà. Le verset 25 nous dit que nous devons nous débarrasser du mensonge. Et au lieu du mensonge, nous devons dire la vérité à notre prochain parce que nous sommes membres les uns des autres. Alors, notre ancienne nature, orientée par le péché, essaye de nous faire croire que nous devons impérativement veiller à nos propres intérêts et que pour cela, nous devons nous méfier des autres. Et dans notre intérêt, il y a en particulier des vérités que nous devons cacher. Voilà, peut-être afin de préserver notre position sociale, notre réputation, afin que les autres continuent à nous aimer, ou nous aiment, voilà, nous devons des fois porter une sorte de masque. Voilà, le masque que nous sommes quelqu'un de bien, quelqu'un de bon. En fait, nous soignons surtout les apparences. Peut-être également que, afin de préserver notre amitié avec quelqu'un, eh bien, il y a des choses qu'on n'ose pas dire à cette personne. Eh bien, si nous agissons ainsi, nous ne pourrons pas grandir à l'image de Christ. Lorsque nous mentons par nos mots ou que nous mentons par nos attitudes, nous attristons l'Esprit de Dieu. Lorsque nous ne disons pas la vérité à notre prochain, nous attristons l'Esprit de Dieu. Parce qu'au sein du corps de Christ, nous sommes membres les uns des autres, parce que nous devons veiller les uns sur les autres, parce que le même Esprit nous habite, nous devons mutuellement nous dire ce qui est vrai. Peut-être les difficultés que nous rencontrons dans notre marche avec Dieu, c'est comme ça qu'on peut recevoir des conseils, c'est comme ça que les autres peuvent prier pour nous. Peut-être également que parfois, on devrait pouvoir dire à quelqu'un ce qui nous inquiète sur la manière que cette personne a de vivre sa relation avec Dieu. C'est peut-être comme ça qu'elle sera elle-même reprise, qu'elle va se remettre en question. Et un des moyens de savoir si c'est réellement le Saint-Esprit qui nous inspire, c'est de discerner si lorsque nous disons cette vérité, eh bien c'est l'amour qui nous pousse. L'amour pour Dieu, l'amour pour notre prochain. Parce que lorsque c'est le Saint-Esprit qui nous conduit, la vérité se dit toujours dans l'amour. Si nous voulons que le Saint-Esprit nous fasse grandir, nous et les autres, rejetons le mensonge et disons-nous la vérité dans l'amour. Un autre exemple qui nous est donné de ce qui peut attrister le Saint-Esprit, c'est notre gestion de la colère. Versets 26 et 27, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. » Alors, ici, ce n'est pas tellement d'être en colère qui pose un problème. D'ailleurs, ce verset peut également se traduire par « lorsque vous vous mettez en colère ». Parce qu'il y a de bonnes et saintes colères. L'injustice est quelque chose qui doit nous mettre en colère. Lorsque la sainteté de Dieu n'est pas respectée, cela doit nous mettre en colère. Lorsque le mensonge remplace la vérité, nous devons être en colère. Jésus lui-même s'est mis en colère. Ce n'est pas tellement la colère qui pose problème, c'est la manière dont nous allons la gérer. Et si jamais nous la gérons mal, nous allons attrister l'Esprit de Dieu. Alors comment est-ce que, lorsque c'est notre ancienne nature qui nous conduit, comment est-ce que nous gérons notre colère? Alors déjà, en règle générale, on ne se met pas en colère pour de bonnes choses. Voilà, on se met en colère pour ce qui va nous empêcher, nous, d'avoir tout ce que nous voulons. Et puis souvent, on dit la colère est mauvaise conseillère, souvent cette colère, elle nous pousse à pécher, à faire des choses que Jésus n'aurait pas fait. Et puis cette colère, souvent nous la gardons dans notre cœur, et elle fait quoi cette colère lorsqu'elle est là? Elle nous ronge jour après jour, elle nous dévore, et elle finit par nous couper de notre relation avec Dieu, et souvent, elle peut déboucher sur le péché. Eh bien, le Saint-Esprit qui vit en nous, au contraire, veut nous encourager à bien gérer notre colère. Donc, cherchons à la résoudre, oui, mais sans péché. Parce que on ne peut pas résoudre le mal par le mal. Et si jamais nous sommes dans l'impossibilité de la gérer sans péché, alors nous devons la remettre à Dieu. Nous ne devons pas nous coucher sur notre colère et la retrouver le lendemain encore plus forte que la veille. Nous devons nous en débarrasser. Nous devons la remettre à Dieu. Le livre des psaumes, c'est particulier le livre des psaumes. Eh bien, le livre des psaumes est rempli de l'expression de la colère du psalmiste, ce qu'on appelle des psaumes d'imprécation. Genre de psaume, des fois, quand on offre une Bible à quelqu'un, on espère qu'il ne va pas commencer par là. Dans ces psaumes-là, celui qui les a écrits, conduit par l'Esprit de Dieu, ouvre son cœur et fait part de toute sa colère et sa frustration. Mais en même temps, dans ces psaumes, il exprime qu'il renonce lui-même à se venger et qu'il remet cette colère à Dieu. Il demande à Dieu d'agir, parce que c'est à Dieu qu'appartient la vengeance et la rétribution. Nous ne devons pas laisser notre colère grandir et prendre toute la place, nous devons la remettre à Dieu. Que nous ne couchions pas sur notre colère, mais que nous puissions la remettre à Dieu. Si nous voulons que le Saint-Esprit puisse agir dans nos vies, lorsque nous sommes en colère, ne l'attristons pas en laissant une place au diable dans notre cœur, en péchant ou en continuant à garder cette colère. Et si nous ne pouvons pas résoudre cette colère sans péché, confions-la à notre Dieu. C'est à lui qu'appartient la vengeance. Un autre aspect de notre vie par lequel nous pouvons attrister le Saint-Esprit, c'est maintenant notre manière de gérer les richesses et les divers avantages qui peuvent exister. Verset 28, que celui qui volait cesse de voler. Qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Notre ancienne nature nous pousse à nous approprier même ce qui ne nous appartient pas. Voilà, ce que on ne mérite pas, on veut quand même l'avoir. Alors c'est ce qui nous arrive lorsque nous volons, mais c'est également ce qui arrive lorsque nous téléchargeons illégalement de la musique, des films, des logiciels. Cela ne nous appartient pas, nous ne méritons pas de l'avoir. Et pourtant, nous le prenons, j'en ai besoin. C'est ce qui arrive lorsque nous profitons de certains avantages sociaux ou professionnels, alors que ce n'est pas justifié. C'est ce qui arrive lorsque nous faisons de fausses déclarations dans le but d'obtenir un avantage indu. Eh bien, lorsque nous faisons cela, nous attristons l'Esprit de Dieu qui est en nous, parce que le Saint-Esprit ne nous pousse pas à nous approprier ce qui ne nous appartient pas. Mais au contraire, le Saint-Esprit nous pousse exactement à l'inverse. Il nous pousse à partager ce que nous avons, et même à partager ce qui, aux yeux des hommes, nous méritons de posséder. Nous avons travaillé honnêtement, pour cela nous avons reçu un salaire dont nous faisons ce que nous voulons. Voilà, c'est à nous. On ne l'a pas volé, on l'a même mérité. Eh bien, c'est vrai aux yeux des hommes, mais pourtant, Dieu nous dit, travaillez honnêtement par vos propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Si nous appartenons à Jésus, alors cela signifie que ce que nous avons reçu, ce que nous avons même gagné, eh bien en fait ne nous appartient pas, mais appartient à Jésus. Et nous, nous ne sommes que les gestionnaires des biens que le Seigneur nous a confiés. Lorsque nous nous approprions ce qui ne nous appartient pas, ou bien lorsque nous gardons pour nous seuls les biens que le Seigneur nous a confiés, nous attristons l'Esprit de Dieu. Afin que la puissance du Saint-Esprit transforme nos cœurs et nos vies, vivons honnêtement et partageons ce que le Seigneur nous a confié. Un dernier exemple nous est donné, c'est la manière dont nous rentrons en relation les uns avec les autres. Verset 29, « Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. » Notre ancienne nature, faut bien reconnaître, elle nous pousse à parler à tort et à travers. Nous disons, par exemple, la vérité, mais ce n'est pas l'amour qui nous pousse à parler. Des fois, on discute avec certains, puis ils disent « Oui, mais c'est vrai !» Oui, mais ce n'est pas parce que c'est vrai qu'on peut le dire comme cela ou avec l'intention qui est derrière. Nous parlons sans réfléchir. Nous parlons de choses malsaines, c'est-à-dire des choses qui vont à l'inverse de ce qui est bon et juste aux yeux de Dieu. Des médisances, des calomnies, des choses irrespectueuses. Et puis je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la plupart des bonnes blagues, eh bien, elles se situent en dessous de la ceinture, ou alors elles sont moqueuses, humiliantes. C'est peut-être des bonnes blagues, mais n'empêche, ce ne sont pas des choses à dire. Ce n'est pas quelque chose qui va édifier ou servir à ce qui est bien, mais au contraire, qui contribue à abaisser, salir, ternir. Nous attristons le Saint-Esprit lorsque nous utilisons notre bouche pour démolir, salir, rabaisser quelqu'un, même si c'est vrai et même si c'est fait avec beaucoup d'humour. Au contraire, le Saint-Esprit nous pousse à être attentifs aux besoins des autres et à leur dire les paroles qui vont contribuer à les élever vers Dieu. Voilà, qui va pouvoir les encourager dans leur marche avec Dieu, qui va les interpeller, les aider. Si nous voulons que le Saint-Esprit nous fortifie, soyons attentifs à nos paroles. Ne prononçons pas de mauvaises paroles, mais au contraire, cherchons à dire ce qui va encourager les autres dans leur marche avec Dieu. Alors les divers exemples que nous avons vus sont loin d'être exhaustifs. Mais retenons ce qu'il nous révèle sur la manière dont le Saint-Esprit agit en nous. Lorsque nous allons dans la direction inverse de la volonté de Dieu, nous attristons le Saint-Esprit. Nous nous privons alors nous-mêmes de la puissance de renouvellement, de la puissance de régénération du Saint-Esprit, parce que nous allons à contre-courant du Saint-Esprit. On lutte contre lui, en fait. Mais si, au contraire, nous allons dans la direction de la volonté de Dieu, alors nous allons dans le même sens que le Saint-Esprit. Nous coopérons avec lui et nous bénéficions alors pleinement de sa puissance de transformation. Le projet de Dieu pour nous, il est merveilleux. Il veut restituer en nous ce que nous sommes vraiment, au fond de nous, des hommes et des femmes créés en l'image de Dieu. Eh bien, c'est par son Saint-Esprit que Dieu veut restituer en nous cette image. Aussi, n'attristons pas le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit qui vit en nous, mais au contraire, coopérons avec lui.